Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Bon après-midi à tous. Nous allons poursuivre ce cours qui va être directement dédié cette fois aux matériaux d'électrode, et plus spécialement on va s'intéresser aux matériaux d'électrode positive qui participent dans les batteries à ion sodium. Alors on va parler aujourd'hui principalement des composés polyanioniques et des composés lamellaires, et on laissera les bleus plus pour la prochaine fois. Alors quand je regarde directement tous les composés qu'il faudrait que je vous couvre pour la technologie sodium-ion, vous voyez qu'ici il y a quand même une centaine de composés qui ont été étudiés durant ces 10 dernières années. Il est bien évident que je n'avais pas du tout couvrir tous ces composés, mais je vais sortir certains d'entre eux qui ont, je dirais, présentent un intérêt vis-à-vis des applications. Et c'est la raison pour laquelle je couvrirai certainement une dizaine de matériaux dans tout cela. Alors tous ces matériaux, si vous avez suivi les cours il y a 2 ou 3 ans sur le lithium, on va retrouver les mêmes familles de composés que sont les composés polyanioniques, les composés lamellaires, avec les différentes structures, les composés organiques et ainsi de suite. Alors si je veux essayer d'ordonner un peu ces différents types de composés, vous voyez qu'en termes de potentiel, on aura les composés polyanioniques qui sortiront avec des plus hauts potentiels, suivis par les bleus de Prusse, les lamellaires et enfin les organiques. Alors j'ai fait ce schéma pour directement attirer votre attention déjà sur un fait, que ces composés vont avoir directement de leur activité à l'humidité. Et comme vous pouvez le voir ici, on s'aperçoit que si vous prenez directement le domaine potentiel thermodynamique de l'eau, on s'aperçoit, comme vous voyez ici, qu'aux alentours de 3 volts, certains de ces composés vont réagir. C'est la raison pour laquelle les composés polyanioniques auront l'avantage de ne pas réagir à l'humidité par rapport aux lamellaires qui, comme vous le verrez par la suite, sera en casse-tête. Quant aux bleus de Prusse, par eux-mêmes, leur structure va tout simplement englober de l'eau. Il faudra directement gérer cette eau par des réactions de déhydratation pour avoir des performances, plus intéressantes. Alors bien sûr, lorsqu'on voit tout ça, il y a une grande richesse de candidats, et la question c'est finalement, quels vont être les gagnants? Alors, quels vont être les gagnants? Si on regarde finalement, dans le cas de la technologie sodium-ion, il y a eu 2 écoles dans ces études, des écoles qui ont directement favorisé, basées sur l'expérience des lamellaires, tout ce qui se fait dans le cas du lithium, lithium-ion, c'est les compagnies indiquées ici, et dans le cas du réseau français, on a décidé directement de prendre notre direction, c'est-à-dire de voir quel était le potentiel des composés polyanioniques pour ces genres directement de batteries à ion sodium. Alors pourquoi directement ce choix? Ce choix, il sortait pas directement à la beuglette, mais il sortait tout simplement sur le fait que lorsque vous regardez ces structures polyanioniques, et j'y reviendrai un peu plus longtemps par la suite, il y a ce qu'on appelle dans ce cas l'oxygène qui est remplacé par un polyanion qui est XO4, mais ce qui est vraiment important, c'est cette figure qui est indiquée ici, c'est-à-dire que dans ce cas, vous allez avoir directement des liaisons MO avec le métal, et vous avez ici la liaison avec l'anion et l'oxygène. Et on va pouvoir, selon l'ionoquivalence de ces liaisons, ajuster le potentiel redox de ces matériaux. Et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir avoir des composés, par exemple du fer, qui vont directement travailler sur le même couple redox, fer plus 2, fer plus 3, mais en raison directement d'un polyanion différent, comme dans ce cas MO4 ou SO4, vous allez directement modifier ce potentiel redox. D'où la loi va être relativement simple ici. Plus vous allez mettre un anion électronégatif, plus vous allez augmenter la covalence liaison SO et en même temps diminuer, c'est-à-dire celle du métal oxygène, c'est-à-dire augmenter sa ionicité. Et augmenter sa ionicité, ça veut dire que vous allez baisser tout simplement les couples redox comme indiqué ici. D'où voilà directement ce type de composé qu'on va utiliser. Alors bien sûr, il y a une très grande variété de tous ces composés et effectivement, il faut voir quand même que lorsqu'on va passer finalement des composés lamellaires à des composés polyanioniques, comme vous voyez ici en haut, il y a certains paramètres ou certains facteurs qu'il faut se rappeler. Tout d'abord, vous voyez que je remplace cet octaèdre par cet octaèdre plus le polyanion ici, et dans ce cas, vous voyez que je remplace un oxygène par toute cette quantité, si je peux dire, de matière qui va être la matière morte. Et c'est la raison pour laquelle ça sera relativement difficile d'avoir des capacités élevées avec des composés polyanioniques. De plus, en raison de cette structure relativement ouverte, ces composés ont des densités plus faibles que les lamellaires. Donc tout ça, eh bien, ça va conduire tout simplement à des matériaux intéressants pour des propriétés que l'on verra, mais en termes de densité d'énergie, il y aura une pénalité. Alors parmi ces matériaux, eh bien, vous avez tous les polyanions fossiles. Par exemple, vous avez le phosphate, silicate, sulfate, vous avez du pyrophosphate et même, dans ce cas, des polyanions mixtes avec directement le groupe phosphate et le groupe pédoso 7. D'où tous ces composés, eh bien, ils ont été étudiés fortement durant les années. Et ici, je vous mets finalement un peu eh bien, la description ou l'aperçu chronologique de la découverte de ces composés et quand est-ce que les chercheurs s'y sont intéressés. Les premiers travaux sur les fluorosulfates de sodium commencent dans les années 2010. Ça, c'est suite à des études qu'on a menées sur les mêmes composés avec, dans ce cas, le lithium. Ensuite, ça progressait avec toute une sorte de phosphate, avec également ici des composés hydratés, comme vous pouvez le voir, avec des phases de type Na2, FeSO4, 2H2O, ainsi de suite. L'avantage de ces sulfates polyaniques, c'est leur synthèse qui se fait à basse température et part tout simplement du broyage mécanique. Et alors c'est intéressant parce que ces sulfates, c'est finalement presque les seuls composés qui se préparent aussi bien par des méthodes ainsi, pour la bonne et simple raison, c'est que tout simplement lorsque vous faites du broyage mécanique, l'échauffement associé directement au choc entre les boules et les parois eh bien, est relativement suffisante pour atteindre des températures qui ne sont certainement pas trop loin du point de fusion de ces composés. Alors parmi eh bien, ces différents composés, eh bien, je dirais il y en a qui ont vraiment été intéressants et qui ont été découverts, je dirais, ces 10 dernières années, c'est notamment ces composés au fer, bien sûr, pour chaque fois des avantages au niveau éco-compatibilité. Et vous avez ici, par exemple, différents hydrates que l'on peut obtenir par déhydratation progressive en obtenant des composés dont les potentiels redox sont indiqués ici. Mais bien sûr, ces composés, lorsque vous les mettez dans l'accumulateur, à raison de cette eau résiduelle, eh bien, il n'y aura pas des performances, formidables, puisque vous allez avoir des réactions avec l'électrolyte et des dégradations rapides. En revanche, vous avez toutes les phases du diagramme Na2SO4, FeSO4, comme indiqué ici, qui ont, sollicité des avantages relativement importants. Et vous voyez en ce cas, les composés Na2FeSO4 deux fois et Na2FeSO4 trois fois ont été très étudiés, avec notamment les différentes stoichiométries indiquées ici. Alors ce composé, je vais m'arrêter un peu plus longtemps, pour en décrire tout d'abord la structure. Cette structure, dans la phase Na2FeSO4 trois fois, qui est une structure monoclinique, qui est formée de dimères FeO10, qui vont directement créer des fils directement allant perpendiculaire au tableau, et qui vont être connectés par les entités SO4, laissant des cavités au sein duquel directement les ions sodium pourront y aller. Alors la conductivité ionique de ces matériaux, eh bien, elle est 10-7 siemens par centimètre, mais la conductivité électronique est encore moindre. D'où on a, dans ce cas, eh bien, un problème de conduction électronique si on veut faire des électrodes. Malgré cela, eh bien, ce matériau, comme vous pouvez voir ici, vous voyez ici, un couple redox 3,8 volts, ce couple redox est directement associé eh bien, à l'électronégativité du soufre, c'est-à-dire au polyanion SO4. Et vous voyez qu'en performance, on a des performances relativement intéressantes sur ce type de matériaux. Alors ces composés, eh bien, ils peuvent se faire avec d'autres éléments 3D, notamment, eh bien, on peut le faire avec le manganèse, le cobalt et le nickel. Et je vous ai mis directement ce schéma ici pour vous montrer eh bien, que ce couple redox, on le déduit très simplement en regardant les potentiels d'ionisation des différents éléments et on peut les classifier. Et vous allez trouver, je dirais, quel que soit le polyanion que vous allez utiliser, vous allez avoir toujours la même séquence au niveau des potentiels en passant directement du manganèse, cobalt, nickel et ainsi de suite. D'où, cependant, il y a deux limitations à ce composé. Là aussi, c'est cette hygroscopicité et également sa conduction électronique relativement faible. Alors pour pallier à cela, eh bien comme on a déjà vu dans beaucoup d'occasions, eh bien on va essayer tout simplement d'y apporter des cotines, des enrobages de carbone pour avoir une meilleure percolation électronique. Et dans ce cas, eh bien, qu'est-ce que vous voyez ? Une synthèse qui a été effectuée en présence de carbone nanotube ou de graphène pour obtenir ces particules de Na2FSO4 deux fois, qui sont entourés de carbone. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir, comme vous pouvez voir ici, des cellules sodium-ion, dont la courbe électrochimique est indiquée ici, avec un potentiel moyen de 3,5 volts et une très bonne autonomie en cyclage. Cependant, là aussi, comme vous allez voir par la suite, eh bien, ces composés, toujours intéressants, mais ils ont une capacité relativement faible de 70 à 80 mAh par gramme, une fois de plus associée à la masse directement de ces matériaux. Donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, on va maintenant voir d'autres composés qui ont été encore plus étudiés que ces sulfates, et on va passer aux composés de type phosphate, avec notamment ces composés qui appartiennent à la fameuse famille de nazicon. Alors nazicon, c'est sodium superionique conducteur. Alors ces composés sont intéressants, c'est-à-dire la structure, je dirais, elles ont tout un dénominateur commun, qui est tout simplement cette brique élémentaire, qui est constituée directement de trois tétraèdres, qui sont directement reliés par des octaèdres, ce qu'on appelle, dans le jargon de la cristallographie, des lanternes. Et ces lanternes sont connectées individuellement à six autres lanternes pour laisser des cavités au sein desquelles, tout simplement, les ions sodium vont aller s'insérer. Et là aussi, comme vous pouvez voir, vous avez une ribambelle, je dirais, de composés qui vont soit contenir des différentes sortes de métaux 3D, et on va jouer sur ces métaux 3D pour avoir des métaux 3D, et on verra par la suite, qui peuvent, dans ce cas, eh bien, accepter un ou deux électrons, comme le vanadium, par exemple, qui va revenir souvent, voire le fer, ou même le manganèse. Ce qui permettra d'avoir des capacités plus importantes, puisque vous pourrez échanger deux électrons. Ensuite, il y a les composés qui sont, je dirais, avec un seul métal de transition, et là, c'est les phases indiquées ici. Donc, vous avez le fer, le titane, le vanadium et le chrome. Et un composé qu'on va regarder plus en détail, car il a été étudié, je dirais, très fortement, est la phase sodium 3, V2, PO4, trois fois. Alors, cette phase, dont je rapporte la synthèse ici, c'est une synthèse qui a lieu à partir du ammoniac de vanadium plus, dans ce cas, eh bien, NH2PO4, 2H2O et l'acide citrique, qu'on pourra utiliser dans ce cas pour, je dirais, décomposer ce matériau et avoir du carbone en même temps. Et on peut obtenir la structure de la phase Na3V2OPO4, dans laquelle vous avez deux sortes de sites, des sites qui sont en environnement une coordination 6 et d'autres qui ont une coordination 8. Cette phase, eh bien, elle présente une caractéristique électrochimique qui est bien définie, avec notamment un plateau à 3,4 volts, comme indiqué ici, et une capacité de 110 mAh par gramme. Alors sur cette phase, eh bien, il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau de la substitution, soit pour essayer eh bien, de retirer plus de 2 sodium, car vous voyez ici, je ne retire que 2 sodium, je fais de la phase Na3 à Na1, d'où par conséquent, il y a eu des travaux qui ont été faits pour augmenter cette amplitude de retrait de lithium, mais également pour augmenter le potentiel, c'est-à-dire jouer avec les redox du métal 3D. Et c'est ainsi qu'on peut voir, dans ce cas, eh bien, des substitutions qui ont eu lieu par, dans le cas de l'aluminium, par le chrome ou le gallium, où dans ce cas, effectivement, on peut directement activer à des potentiels de 3,9 volts le couple V4+, V5+. On peut également utiliser des substitutions différentes, et une est une substitution relativement intéressante ici, dans laquelle on va préparer la phase Na4 Mn vanadium, où dans ce cas, eh bien, vous allez pouvoir jouer avec les deux couples redox du vanadium, qui sont les couples plus 3, plus 4 et plus 4, plus 5, pour augmenter la capacité, et également avec le couple du manganèse plus 2, plus 3. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut augmenter, je dirais, la capacité et aller jusqu'à 3 sodium lors de la première charge, mais lors des cycles suivants, eh bien, ces couples redox ne sont pas les plus actifs et on a une diminution en capacité. Et enfin, une autre phase qui a été aussi étudiée, c'est une substitution dans laquelle on va coupler cette fois le vanadium et le fer pour une fois de plus, comme vous pouvez voir ici, on va apparaître directement un potentiel redox à 4 volts avec en dessous, eh bien, dans ce cas, une réduction à 2,3 volts qu'on verra par la suite. Donc voilà, si vous voulez, ces composés de type Na3B2PO4. Alors là aussi, eh bien, pour une fois de plus augmenter la puissance de ces composés, on va y faire des traitements ou des enrobages par le carbone. Et vous voyez ici des enrobages qui ont été faits sur cette phase Na3B2PO4 trois fois. Vous voyez très bien ici la couche de carbone à la surface. Et grâce à ça, eh bien, on a tout simplement des matériaux qui ont des performances électrochimiques relativement importantes, puisque vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 200 C et avoir des capacités de 60 mAh par gramme, ce qui est relativement impressionnant, et un nombre de cycles qui peut aller relativement stable jusqu'à 1000 cycles. Mais là aussi, une fois de plus, ce matériau est intéressant, avec cependant le fait qu'on a une capacité limitée à 100 mAh par gramme. Alors un aspect de ce matériau aussi est le fait qu'on a du sodium 3, mais on va voir qu'on peut également, je dirais, sursodier ce composé et jouer sur le couple V3+2. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le vanadium, qu'on va utiliser souvent, eh bien, a la possibilité de passer de trois couples redox, V3+2, V4+3 et V5+4. Et tout cela va donner une certaine liberté, au degré de liberté, dans la conception de matériaux. D'où ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ce matériau, on peut soit l'oxyder, soit le réduire. Et si on peut soit l'oxyder, soit le réduire, eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, on va pouvoir construire des cellules symétriques dans lesquelles le même matériau va être utilisé pour l'électrode positive et l'électrode négative. Alors tout cela, c'est intéressant, avec, bien sûr, la pénalité, c'est que le potentiel de sortie va être relativement limité, et vous serez dans ce cas limité à 1,7 volts. Donc voilà, si vous voulez, les travaux qui se font sur ces composés. Alors ensuite, ce que je voudrais partager avec vous ici, c'est un des résultats récents qui a été obtenu sur ces phases Na3V2PO4 trois fois récemment. En effet, ces études qui ont eu lieu récemment à Amiens, dans lesquelles eh bien, les chercheurs se sont posé la question, est-ce que ce composé tout simplement est biphasé ou monophasé ou ainsi de suite. Et en faisant des cycles, notamment en étant en dehors de l'équilibre, ils ont pu apercevoir qu'entre la phase Na3 et Na1, il y avait une phase qui est une phase Na2 qu'ils ont réussi directement à détecter de façon électrochimique. Et celle-ci, ils ont pu, en faisant des cellules relativement larges pour obtenir assez de matériaux, obtenir le diagramme de poutre. Et intéressant, sachant cette information, ils ont alors décidé directement de préparer le matériau de façon chimique à partir d'un mélange tout simplement de Na3 et Na1 dans des quantités stoichiométriques, ce qui fait que théoriquement vous devez obtenir la phase Na2. Et bien effectivement, en faisant cela, c'est des travaux qui avaient été réalisés précédemment dans la même systématique ou dans le même concept pour lithium FePO4, ils ont pu obtenir à 500 degrés C, et bien un autre polymorphe, Na3V2PO4 trois fois, dont les structures sont relativement représentées ici. Je ne vais pas aller dans les détails des structures. La différence entre ces structures provient du fait de l'occupation du sodium dans les différents sites de ces deux matériaux. Alors vous voyez que ces structures, a priori, eh bien, elles ne présentent pas des différences relativement énormes. Cependant, vous allez voir que les propriétés électrochimiques vont changer drastiquement entre ces deux polymorphes. Et pour ce faire, eh bien, je vous présente ici eh bien, la phase qu'on vient de voir, Na3V2PO4 trois fois, avec un plateau à 3,4 volts, et vous voyez que cette nouvelle phase, en violet, eh bien, a une signature électrochimique qui est totalement différente de la phase précédente, en raison, finalement, de l'agencement du sodium dans ces structures. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu préparer cette phase qu'ils n'avaient jamais obtenue auparavant, qui est la phase totalement désodiée, V2PO4 trois fois. Ce matériau présente, dans ce cas, eh bien, des tenues en cyclage relativement intéressantes, une bonne tenue en puissance, et grâce à cela, eh bien, ils ont pu obtenir un matériau qui, je veux dire, a une tension de travail qui est aux alentours de 3,7 plutôt que de 3,45 par rapport à la phase de départ. Au niveau de contraction de volume, ce qui est un mieux pour le cyclage, mais cette contraction de volume est plus faible. Et enfin, eh bien, une densité d'énergie qui est de 458 Wh par kilo, comparé à 387 Wh pour NPP. Donc voilà, si vous voulez, parfois des recherches qui peuvent conduire à de nouvelles phases grâce au couplage, je dis, chimie et électrochimie. Alors, pour résumer cette phase NPP, je vous ai déjà mentionné qu'on pouvait faire des cellules symétriques et des chercheurs ont, je dirais, essayé d'élaborer davantage ce système. Et vous avez ici le cas d'une batterie sodium-ion dans laquelle on a du carbone, et vous voyez le potentiel 3 volts, c'est la signature d'une sodium-ion basée sur NVP. Ensuite, eh bien, on peut utiliser tout simplement du graphène comme électrode négative. Et enfin, on peut utiliser, là aussi pour avoir des potentiels différents, coupler dans ce cas une phase NVP avec une phase sodium-titane-fer-phosphate, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ces travaux sur cette phase NVP. Alors cette phase NVP, si je dois conclure, eh bien, elle est intéressante au point de vue puissance et au point de vue tenue en cyclage. Et cela, ça vous sera montré dans l'exposé suivant, où on regardera pourquoi cela, grâce au transfert à l'interface. Mais la difficulté, eh bien, c'est qu'on utilise directement du vanadium, avec de plus un potentiel qui est relativement faible. Alors pour ce faire, eh bien, tout récemment, il y a beaucoup de travail qui se fait autour de ce fameux composé, qui est le pyrophosphate Na4Fe3PO42P2O7. Alors pourquoi ce composé? Pour la bonne et simple raison, c'est que tout simplement, il utilise du fer, qui est un élément relativement abondant. Les conditions de synthèse, il n'y a rien de bien sorcier, c'est des conditions de ce qui se font avec un broyage mécanique suivi par des recuits à haute température, et ainsi de suite. La structure orthorhombique, dans laquelle on peut voir, dans ce cas, eh bien, les P2O7, ou les entités P2O7, qui ne sont rien d'autre qu'une condensation de 2 PO4, qui sont directement reliées, là aussi, avec des tétraèdres PO4 pour conduire à cette structure ouverte. Ce composé, eh bien, a, dans ce cas, une capacité qui est aux alentours de, toujours pareil, dans les 100 mAh par gramme, avec un potentiel de 3 volts. Mais un inconvénient de ce composé, si vous rappelez mon deuxième transparent, c'est qu'il a un potentiel de 3 volts, il va dans ce cas être, je dirais, se dégrader à l'air pour donner une déshydratation ou une décomposition pour donner une phase Na3PO4. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe, je dirais, dans ces composés. Alors là, eh bien, maintenant, on a joué sur le concept d'avoir directement des matériaux éco-compatibles. La question est maintenant, c'est est-ce qu'on pourrait augmenter le potentiel pour revenir et avoir cette densité d'énergie? Et pour augmenter le potentiel, eh bien, on va revenir au concept que je vais utiliser fréquemment aujourd'hui, au concept de ion covalence. Je vous ai parlé d'éléments électronégatifs, donc par conséquent, si je veux augmenter mon potentiel, est-ce que je vais pouvoir loger du fluor dans ces structures? Et c'est ce qui va me mener directement au composé polyanionique, au fluorophosphate. Et là aussi, le fluorophosphate, c'est une histoire qui commence dans les années 2004 avec de nouveaux composés qui ont été découverts le long de la route, avec notamment la phase Na3V2PO4 3F3, qui a une erreur ici d'ailleurs, Fe4PO2F3, avec aussi des composés au cobalt et ainsi de suite. Et ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est ces types de composés et qu'est-ce qui s'est passé. Alors là aussi, eh bien, une autre famille de composés et systématiquement, vous allez avoir, je dirais, des substitutions. Alors vous avez ici la phase Na2PO4, dont j'ai mentionné, avec un potentiel de 3,4 volts. Vous avez ici la phase Na2FePO4, avec un potentiel de 3,5. Okay. Et vous avez ici la phase Na2VO4FE3, dans laquelle on a un potentiel de plus gros que 4 volts. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, eh bien, ça va être simplement cette phase NVPF. Alors, cette phase NVPF, eh bien, voilà sa courbe électrochimique, et on va la coupler avec des carbones pour fabriquer une batterie, je dirais, dans ce cas, sodium-ion. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on obtient cette courbe électrochimique avec un potentiel moyen de 3,6 volts, au sein de laquelle on s'aperçoit que, lors du premier cyclage, eh bien, on a une perte de 25% de la capacité, c'est-à-dire une perte de sodium qui est associée à la formation d'une interface solide électrolyte autour des particules. D'où la problématique ici, c'est de savoir comment on peut compenser pour cela. Alors pour faire cela, eh bien, il faut seulement voir la possibilité d'inclure un réservoir de sodium dans notre système. On a deux possibilités, soit on peut introduire des sels sacrificiels, Na3N, ainsi de suite, qui se décomposerait et qui donnerait du sodium, Soit, tout simplement, on peut utiliser des composés sursodiés qui vont nous permettre directement d'avoir cette réserve. Et c'est la raison pour laquelle bien, des travaux ont conduit à jouer sur la deuxième approche qui va directement consister à sursodier ces matériaux. Et pour cela, eh bien, on va faire des expériences relativement simples. C'est-à-dire qu'on va prendre à la phase de départ Na3, B2, PO4, F3, sur lequel on va, dans ce cas, broyer avec du sodium métallique pour obtenir effectivement deux structures qui sont des structures enrichies en sodium dans lesquelles on a du sodium 4, V2PO4 deux fois. Et ça, eh bien, ça va être tout simplement notre excès de sodium que l'on va utiliser pour compenser pour cette SEI. Et si on regarde effectivement ces matériaux, lorsqu'on regarde la réduction, on peut synthétiser cette phase Na4, V2PO4 deux fois, F3. Cependant, cette phase, on ne peut pas l'obtenir pure de façon électrochimique. Mais grâce à cela, eh bien, on va utiliser tout simplement des composés Na3 plus X qui vont nous permettre de compenser cette perte de sodium. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que cette phase, mais là aussi, elle a du vanadium. Et la question, c'est est-ce que l'on peut pousser le vanadium à ses extrêmes et avoir accès au vanadium plus 4 plus 5. Et là, c'est les travaux, si vous voulez, qui ont existé, dans lesquels on peut sortir de sodium, et c'est ce que tout le monde faisait. Cependant, la question était de savoir, est-ce qu'on peut directement aller à la phase sodium 0, c'est-à-dire à la phase V2, puis au K2, F3. Et cela, effectivement, on peut y aller électrochimiquement. Si on fait une oxydation électrochimique jusqu'à haut potentiel, où, vous pouvez voir ici, on a Na3, Na2, Na1 et Na0. Et dans ce cas, eh bien, on peut caractériser ces différents composés qui vont se former le long de cette oxydation, dont les structures sont indiquées ici, avec les coupes d'espace, et on peut bien sûr avoir un phénomène relativement réversible, sur lequel on s'aperçoit qu'on revient à une phase qui est, je dirais, la même composition que la phase de départ, avec une structure différente, c'est-à-dire on obtient, je dirais, un type de polymorphe à des températures relativement identiques. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces matériaux. Alors, dans ces phases NVPF, là aussi, la question était de voir est-ce qu'on peut encore augmenter davantage le potentiel, augmenter davantage la capacité. Et là, eh bien, des travaux sont faits à consister à faire, je dirais, le chemin inverse maintenant. Est-ce que je peux substituer du fluor, pas de l'oxygène? Et c'est tous les travaux qui sont faits sur les composés dont la formule est indiquée ici, dans lequel vous avez le sodium 3, vous avez le vanadium plus 3 et le vanadium plus 4 pour compenser les charges, c'est-à-dire la neutralité. La synthèse est une synthèse qui se fait à partir des orthophosphates de vanadium et des phosphates de vanadium en présence de fluorure sodium et de sodium carbonate. On peut obtenir une solution solide, comme indiqué ici. Et lorsque, eh bien, l'on regarde ces matériaux, si je regarde finalement les potentiels, eh bien voilà directement mon matériau au départ. Lorsque je vais remplacer maintenant du fluor, pas de l'oxygène, là aussi, vous savez quelle est la réponse. Puisque je change un élément qui est très électronégatif par un élément moins électronégatif, d'où le potentiel va baisser. Et c'est ce qu'on voit ici lorsque vous changez directement avec directement de l'oxygène et lorsque vous avez deux oxygènes ici. D'où on obtient des matériaux dont vous voyez ici que les capacités sont moindres, légèrement moindres que dans le cas de NVPF, mais vous avez de très bonnes tenues en cyclage. D'où, à ce jour, eh bien, c'est les types de matériaux qu'on va regarder également. Et enfin, concernant ces phases, eh bien, on peut également les substituer à l'aluminium. Et l'avantage de la substitution à l'aluminium, eh bien, n'est pas au niveau de la capacité, mais elle permet directement d'avoir accès aux coupes vanadium plus 3, vanadium plus 2. C'est-à-dire qu'on peut, dans ce cas, utiliser ce matériau pour avoir un réservoir de sodium. Donc, pour faire l'histoire courte, eh bien, sur tous ces composés polyaniones, eh bien, comme vous pouvez voir ici, je regarde toutes les substitutions que j'ai faites, eh bien, je m'aperçois que finalement, soit en faisant une substitution par l'oxygène, ou ainsi de suite, le composé qui est, je dirais, qui présente le plus grand avantage est définitivement la phase NVPF. Alors, je peux encore essayer de résumer tout ce que je vous ai dit, et voyez tous ces composés. Je vous ai épargné d'aller dans toutes ces structures et tout ça, et vous voyez quand tous ces composés qui ont été synthétisés, qui ont été étudiés, eh bien, pour résumer, il n'y en a qu'un seul qui, directement, a franchi les portes du laboratoire. C'est la phase NVPF. Et cette phase NVPF, eh bien, c'est celle qui a conduit directement à la création de la compagnie Tiamat, qui est une filière qui se trouve à Amiens, qui ont directement développé depuis 2018 cette technologie et qui l'ont commercialisée en 2023 dans les outils de puissance ou alors actuellement dans le cas de véhicules de mobilité électrique avec le projet d'une construction de Megafactory à Amiens. Et ces composés, eh bien, ils présentent, je dirais, des avantages en performance puisque vous avez des cellules, comme indiqué ici, qui à 25 degrés eh bien, peuvent cycler jusqu'à 6000 cycles avec 80% de la capacité initiale, voire 10000 cycles avec 70%. Et à 55 degrés C, on peut obtenir à ce jour plus de 2000 cycles. Et certainement, le point le plus important de ces composés polyanioniques, qui sont une fois de plus liés à leur structure, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une structure ouverte dans laquelle il y a une très grande mobilité et très grande diffusion des ions. Et de plus, avec des électrolytes au sodium qui ont là aussi une très grande diffusion. On peut obtenir des batteries qui sont très performantes en puissance. Et vous voyez ici que dans ce cas, eh bien, les puissances sont, je dirais, supérieures à la meilleure technologie lithium-ion, qui est la technologie de Toshiba, qui est la SCIP. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire des polyanioniques. Alors si je conclue maintenant, est-ce que c'est le polyanionique, c'est la panacée? La réponse est non. Parce que si je regarde finalement quelques commentaires, je m'aperçois que, effectivement, la densité d'énergie que j'ai obtenue, bien, elle est toujours de 120 watts par kilo. Okay, et je suis très loin des compétiteurs. Et cette technologie repose sur l'usage du vanadium, qui est un métal peu apprécié. D'où par conséquent, là aussi, il faut des travaux supplémentaires pour augmenter la densité d'énergie, dépasser les 150 watts par kilo et la nécessité d'une chimie qui est beaucoup plus neutre vis-à-vis de l'environnement. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi? Bon, la réponse, l'idéal, serait une chimie à base de manganèse en milieu aqueux. Okay. Il y a les systèmes qui sont développés aujourd'hui, qui sont les systèmes zinc-ion ou zinc-MnO2, mais la question qu'on peut se poser, quelle est la possibilité de développer une chimie sodium-ion aqueuse à base de composés d'insertion? Du manganèse, si possible, qui est un des matériaux les plus abondants. D'où c'est ce que les chercheurs ont essayé directement de poursuivre depuis quelques années. Alors bien sûr, ils ont poursuivi cela en regardant les matériaux d'insertion du manganèse. Et ça, c'est les travaux, c'est un diagramme qui a été, que j'ai repris, qui date des années 1971, vous voyez, il y a plus de 55 ans, dans laquelle les chercheurs à Bordeaux avaient établi tout simplement le diagramme de phase des matériaux NaMnO2. Et on s'aperçoit, lorsqu'on regarde cela, c'est qu'ils ont pu isoler des phases que j'ai mentionnées ici, phase de type sodium 04 MnO2, sodium 044, sodium 07 et sodium MnO2. Et parmi ces phases, eh bien, certaines sont des phases lamellaires, à l'exception de l'une, qui est une phase tridimensionnelle, qui est formée, dans ce cas, eh bien, d'octaèdre MnO6 et de pyramide à base carrée MnO5, qui sont reliées, comme indiqué ici, avec, dans ce cas, eh bien, l'obtention de canaux au sein duquel vont pouvoir se propager les ions sodium. Bien, cette phase va être tout simplement utilisée pour concevoir des batteries sodium-ion. En effet, leur synthèse, elle peut être contrôlée relativement bien suivant la réaction indiquée ici, dont je ne vais pas décrire, on va retrouver finalement chaque fois les mêmes composants avec l'acide citrique. Ce qui est intéressant ici, c'est une solution de polystyrène qui va servir pour former un zérogel qui ensuite va permettre de former une phase Na044-MnO2, dont vous voyez très bien la morphologie bien construite, bien parallélépipédique, avec même des canaux à l'intérieur de ces parallélépipèdes. La structure, je vous la remontre ici, et le diagramme d'X vous indique effectivement que l'on peut avoir une phase totalement indexable, bien qu'il y ait parfois pas mal d'impuretés. Si on regarde cette phase, eh bien, lorsqu'on regarde d'un point de vue électrochimique, bon, on s'aperçoit que dans ce cas, le potentiel, il n'y a rien de miraculeux, hein. On va directement de 3,5 à 2 volts avec une courbe qui a certains défauts, qui oscille. Donc on voit très bien les correspondances dans les courbes dérivées qui sont associées dans ce cas à des distributions, je dirais, non adéquates des sodium dans cette structure. Et ce qui est intéressant, c'est finalement ces performances avec notamment là aussi des performances en puissance associées à cette structure ouverte dans laquelle les ions sodium peuvent se déplacer facilement, avec également ici une très bonne tenue en cyclage. Alors c'est grâce à cela que ce matériau, dont la capacité que vous pouvez voir ici n'est pas tellement élevée, a été utilisé, et je dirais le concept, ici relativement intéressant, concept dans lequel ces chercheurs ont tout simplement associé ce matériau d'électrode faradique à du carbone activé qui a un comportement supercap. Et grâce à cela, ils ont pu obtenir ces performances, dont je vous montre ici la variation du potentiel, dans laquelle, dans ce cas, on va de 0,5 à 1,7 volts, qui, certainement, n'est pas terrible pour le plage au potentiel, mais on peut s'apercevoir ici qu'on a des densités ou des densités d'énergie de autour de 30 Wh par kilo. Et grâce à ce nouveau concept, dans lequel vous avez des systèmes qui fonctionnent, là aussi, notés en électrolyte aqueux, on travaille dans du sulfate au sodium, on peut, dans ce cas, une compagnie s'est créée, c'est Accur Energy, qui a plus de 15 ans maintenant, dans laquelle ils ont développé cette technologie basée sur une cathode qui est un oxyde manganèse, spinel, plutôt que ce que je vous ai montré, une anode qui travaille directement par l'aspect pseudo-capacitif, l'électrolyte, sodium sulfate et un séparateur. Et grâce à cela, voilà les performances obtenues, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cellules dans lesquelles le potentiel va s'étendre de 1,8, 1,9 à 0,6 volts, qui utilisent cette phase, avec des densités d'énergie 40 Wh par kilo et aux alentours de 30 Wh par litre pour la densité volumétrique. Et cette compagnie, au jour d'aujourd'hui, commercialise ces types d'accumulateurs pour tout ce qui est le stockage de masse et le stockage réseau. Et l'avantage, je dirais, c'est là aussi puissance et, comme vous pouvez le voir, un cyclage qui peut durer jusqu'à plus de 1000 cycles. Donc voilà une autre avancée qui s'est faite dans le cas du sodium. Alors là aussi, si après cela, je reviens à mon transparent, où je vais dire, est-ce que finalement, j'ai réussi dans ma tâche, mais j'en aperçois que maintenant, je vous ai parlé de NBPF, des poules ioniques, j'ai intéressé ici. Maintenant, je suis passé dans un sodium ion aqueux, et je vous mentionnais qu'en ce cas, effectivement, on a une technologie qui est beaucoup plus vertueuse vis-à-vis de l'environnement, mais par contre, une faible densité d'énergie. D'où la question finale qu'il faut résoudre, c'est est-ce qu'on peut avoir résolu l'équation performance, environnement et coût. Donc pour cela, on va regarder d'autres familles de matériaux. Et cette autre famille de matériaux, on va revenir bien sûr à toute l'histoire du lithium-ion. Le lithium-ion, il y a eu toujours, pareil, la compétition entre les lamellaires et les poules ioniques. Et les lamellaires, définitivement, en raison de leur poids, comme je l'ai mentionné, ont une densité énergétique qui est beaucoup plus importante que les poules ioniques. Par contre, si maintenant je bouge dans le cas du sodium, mais je vous ai montré que dans ce cas, le passé aux poules ioniques, on a des gros avantages en termes de diffusion, en termes de puissance. Par rapport, en contraste, dans le cas du lithium, et on va du lithium au sodium, on va l'avoir par la suite, on a une baisse au potentiel qui va être une pénalité au niveau de la densité énergie. Cependant, cette densité énergie, comme vous allez voir, elle sera légèrement supérieure au poules ioniques. D'où, si vous voulez, c'est ce qui va me mener à la troisième classe de matériaux dont je vous ai parlé, qui sont les composés au sodium. Alors, ces composés au sodium, là aussi, c'est des composés qui ont été travaillés ou étudiés dans les années 1980, où un groupe de Bordeaux, le groupe d'Hagen-Müller et Claude Delmas, ont directement synthétiser ces phases par des procédés relativement classiques, synthèse céramique à haute température. Ils ont pu obtenir ces phases qu'ils appelaient P'3, P2, O'3 et O3. Ces phases, ils ont pu regarder les comportements électrochimiques et effectivement, je ne vais pas aller dans les détails sur ce transparent, mais on va aller par la suite dans des courbes beaucoup plus intéressantes à regarder et à commenter. Mais vous voyez qu'en ce cas, toutes ces phases ont une activité électrochimique relativement intéressante. Alors bien sûr, la question que vous demandez, c'est quoi tous ces chiffres, et ainsi de suite. Je vais tout simplement décrire une nomenclature qui va être très utile pour classifier ces différentes structures au sein de ces lamellaires. C'est d'ailleurs qu'on va avoir des phases O3, P2, P3, et ainsi de suite. Et ces phases O3 et P2, tout d'abord les lettres O et P, signifie tout simplement que le sodium va se situer en site octahydrique, alors que le dans la phase P2, il va se situer en site prismatique. Ensuite, quelle est la signification des lettres ? La signification des lettres, ce n'est rien d'autre que le nombre de feuillets MO2 que vous avez besoin pour décrire directement l'empilement séquentiel des oxygènes dans la maille élémentaire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la phase 3 avec 3 feuillets, P2 avec 2 feuillets, et ainsi de suite. Et enfin, une autre information qui est relativement intéressante lorsque vous regardez ces composés, bien, se situe au niveau finalement de l'environnement ou ce qui se passe à l'intérieur des feuillets. Dans le cas des phases O3, bien, vous avez le sodium qui est dans ces deux sites octahydriques, et s'il veut diffuser d'un site à l'autre, il est obligé de traverser un site tétrahydrique. D'où, dans ce cas, eh bien, il va y avoir un chemin de diffusion relativement complexe. C'est la raison pour laquelle la diffusion sera moindre dans le cas directement des phases O3. En revanche, dans le cas des phases P3, dans ce cas, vous avez directement deux sodiums qui sont directement côte à côte ou dans des sites prismatiques, ce qui fait qu'en ce cas, c'est la raison pour laquelle eh bien, ces deux sites prismatiques ne pourront pas être occupés simultanément. Et ce qui est la réponse, pour la raison, on aura directement un rapport sodium sur M qui sera inférieur à 1. Par contre, eh bien, le fait que ces deux sites soient partagent des faces eh bien, va vous permettre directement d'avoir une très bonne diffusion directement dans ces composés. Vous voyez que dans ce cas, eh bien, là aussi, on est en train de rentrer dans un système qui est relativement complexe, complexe à plusieurs niveaux, puisqu'on a des structures qui sont différentes, on va avoir des compositions qui sont différentes, et on va avoir des synthèses qui vont être différentes. Et la question, c'est comment on va pouvoir, je dirais, apporter une certaine connaissance, une approche rationnelle dans toutes ces problématiques. Alors, cette approche rationnelle, eh bien, on va essayer de l'apporter une fois de plus en revenant aux bases de la liaison ionocovalente. En effet, si je regarde mon problème ici, c'est que je dois ajuster mon contenu en sodium, ajuster la compétition entre les liaisons MO, c'est-à-dire métatransition oxygène et sodium-oxygène, pour caractériser ces structures O3P2, et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, on va tout simplement regarder cette compétition entre ces liaisons NaO et MO au sein de ce matériau. C'est-à-dire qu'en ce compte, là, on va regarder finalement la distribution électronique ou de charge au niveau des cations. D'où on va définir ce qu'on appelle un potentiel ionique. Ce potentiel ionique, c'est-à-dire rien d'autre, tout simplement, qui va être en ce cas, je dis, la densité de charge au niveau du cation, va rien d'être d'autre que le rapport du nombre d'électrons sur le rayon ionique directement du cation, c'est-à-dire en quelque sorte la polarisabilité. Et on va dans ce cas bien normaliser sa polarisabilité à l'ensemble des cations et également à l'ensemble des anions pour définir un potentiel cationique dont la formule est indiquée ici. Et grâce à cela, eh bien, on va pouvoir tout simplement tracer le potentiel du sodium par rapport au potentiel cationique. Et on va pouvoir avoir deux zones dans lesquelles on peut distinguer, je dirais, les liaisons les plus ioniques qui vont correspondre aux phases O3 et les liaisons les plus covalentes qui vont correspondre aux phases P2. Et ça, eh bien, ça va nous servir de guide pour orienter notre synthèse des matériaux, tant au niveau synthèse qu'au niveau choix des cations dans la suite. Donc voilà, si vous voulez, la première chose qu'il faut que vous sachiez sur ces composés lamellaires. La deuxième chose, eh bien, le challenge numéro 2, c'est que se passe-t-il et que puis-je apprendre de tous mes travaux sur les lamellaires lithium, CO2, et ainsi de suite. Vous voyez ici une comparaison eh bien, de la courbe d'intercalation dans le composé lamellaire lithium, CO2, et vous avez le même dans la courbe et dans CO2. Alors, bien sûr, vous avez déjà une différence en potentiel, différence en potentiel que je vous ai déjà expliqué dans le premier cours, associée, je dirais, au potentiel d'ionisation du sodium et, je dirais, à la compatibilité avec l'énergie de solvation, et ainsi de suite. D'où le sodium est aux alentours de 300 millivolts plus bas. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez une courbe qui est relativement lisse dans le cas du lithium, alors que dans le cas du sodium, vous avez beaucoup d'accidents. Ces accidents, ils proviennent tout simplement qu'il y a de fortes interactions sodium-ion, sodium-sodium, puisqu'on a les deux ions qui sont relativement larges, d'où par conséquent, il va y avoir des structures ou directement des désordres, lacunes sodium, qui sont responsables de toutes ces anomalies que vous allez voir. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, est-ce que la chimie des composés lamellaires au lithium va être identique à celle du sodium? Et là aussi, il ne faut surtout pas avancer à l'aveuglette, parce que je vais vous donner des exemples où ce n'est pas le cas. Voilà le cas du composé LiCRO2 et le cas du composé NaCRO2. Vous voyez que dans le cas du composé lithium CRO2, eh bien, on n'a pas, dans ce cas où on a un retrait, il y a un retrait du lithium, mais on n'a pas directement de capacité en décharge. Eh bien, cela provient du fait que, tout simplement, il y a eu plusieurs suppositions. Certains ont supposé directement qu'il y avait une dismutation du chrome plus 4 en oxydation, chrome plus 3, plus chrome plus 6, et le chrome plus 6 allait directement dans les sites interstitiels. Mais tout récemment, il y a de beaux travaux de microscopie qui ont montré que ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'on avait une migration directement lors de l'oxydation du chrome dans les sites de lithium et bloquer tout simplement la diffusion pour la décharge. Et on a en surface une structure rock-sol et ainsi de suite. D'où, comme vous voyez, il faut quand même faire attention que, je dirais, on ne peut pas, de façon aveugle, appliquer les mêmes règles. Alors, puisque je vous parle de ce composé NaCRO2, là aussi, c'est un composé NaCRO2 qui ne présentait pas tellement d'intérêt jusqu'à ces dernières années. Et tout récemment, eh bien, ce composé a eu un regain d'intérêt avec, là aussi, des synthèses, une fois de plus sophistiquées, dans lesquelles on arrive à préparer ce composé avec, vous voyez, un cotine de carbone. Et on peut avoir, dans ce cas, eh bien, cette courbe électrochimique, avec ce qui est à noter, une polarisation très faible. Eh bien, cela aujourd'hui est fortement utilisé dans les batteries tout solides. Vous voyez qu'on peut avoir cette capacité. Regardez ici, je dirais, les performances en puissance de matériaux, où par conséquent, eh bien, on est en train de développer, ou certains groupes ont développé des batteries tout solides qui sont basées sur ce matériau comme électrode positive, avec, dans ce cas, eh bien, un conducteur ionique à base de sodium, plus à la négative du sodium éteint. Donc voilà directement des matériaux qui sont intéressants. Mais là aussi, d'un point de vue pratique, le chrome, vous savez directement son risque, cytochrome plus 6, pour certains, rappelez-vous pourquoi, dans ce cas, eh bien, automatiquement, il n'y a pas de problème directement de contamination possible. Cependant, on veut, là aussi, avoir des matériaux beaucoup plus écompatibles, éco-compatibles, raison pour laquelle, eh bien, on va tout simplement passer sur les composés, je dirais, classiques NaFeO2. Alors, NaFeO2, d'un point de vue structural, je dirais, c'est presque le premier matériau qui a été trouvé au niveau lamellaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que si on veut faire de la déintercalation du sodium de ce matériau, eh bien, plus on va monter en potentiel, plus on va limiter la réinsertion. Et tout cela, il s'est expliqué très bien dans ce diagramme, où on va avoir une fois de plus de la migration des ions fer dans le site du lithium, comme indiqué ici. Et ça va directement bloquer la réinsertion du sodium à l'intérieur de ce matériau, car il va y avoir une dégradation du composé à haut potentiel. Alors pour contrecarrer cela, eh bien, une équipe japonaise a fait une substitution dans laquelle on va rajouter ou substituer du fer par du manganèse. Et en faisant cette substitution du fer par la manganèse, eh bien, on va obtenir des matériaux dont les courbes électrochimiques sont relativement intéressantes, notamment au niveau de la capacité, qui est une capacité de 200 mAh par gramme. Mais vous voyez ici que là aussi, il y a une énorme pénalité au niveau du potentiel qui, tout simplement, moyennise aux alentours de 2,5 volts. Et on va voir un peu la signification de cette capacité, en quoi elle peut servir. Alors, si on regarde cela, eh bien, je vous ai présenté ici directement ce composé dans lequel, une fois de plus, dans chacun des composés, vous allez pouvoir faire les structures, je dirais, P2 ou les structures O3, et ainsi de suite. Et ici, vous avez le comportement électrochimique de ces phases, dont les compositions sont indiquées ici, en structure P2, en structure O3. Vous voyez qu'en structure P2, effectivement, j'ai très bonne courbe électrochimique et je peux désinsérer du lithium. Et dans ce cas, bien réinsérer jusqu'à un sodium, pour obtenir directement ces concentrations. Par contre, dans la phase Na-Fe1/2-Fe2O2, vous voyez qu'en ce cas, je suis relativement limité et je n'ai pas cette sortie de sodium. Si maintenant je regarde, et ça c'est le point que je vous mentionnais, si je regarde maintenant les tenues en capacité, bon, elles sont à peu près similaires dans les deux composés. Par contre, le point que je vais insister ici, c'est que beaucoup de chercheurs ont rapporté des matériaux prétendant qu'ils avaient des capacités, je dirais, formidables vis-à-vis du sodium. Mais ces capacités, finalement, elles ne sont pas utiles, ou on ne peut pas les utiliser dans le cas d'un sodium ion, puisqu'on n'a aucun réservoir, on n'a que du carbone, on n'a pas du sodium comme électron négatif. D'où là aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que le fer et le manganèse sont définitivement des batteries ou des éléments très intéressants pour faire des batteries sodium-ion vertes. Cependant, cette non-stoichiométrie en sodium limite la densité d'énergie de ces cellules. D'où là aussi, également la même approche, on va faire des travaux de substitution pour tenter d'améliorer cela. Alors ces travaux de substitution, eh bien, on va les faire laborieuse, en regardant les diagrammes ternaires et voir dans ces diagrammes ternaires comment on pourrait stabiliser ces phases O3. D'où là, c'est un travail qui s'est fait dans lequel on va essayer de substituer le manganèse par des éléments différents de façon à modifier une fois de plus l'ionocovalence à liaison. D'où on va faire des substitutions à la fois par le cuivre et par le titane. Et on peut voir qu'on peut pouvoir, dans ce cas, former des différentes phases pour obtenir ici une phase qui va être une phase cuivre-fer de formule sodium 08, cuivre 02, fer 04, Mn 04, O2. Et cette phase, elle va avoir un comportement électrochimique indiqué ici, dans lequel je vais à la fois jouer sur le couple cuivre plus 3, cuivre plus 2, fer plus 3, fer plus 2. Mais là aussi, si on regarde les cyclages en fonction du potentiel, on s'aperçoit que lorsqu'on va à haut potentiel, on a une rapide chute de la capacité, alors qu'on a, à plus bas potentiel, une chute moindre. Ce qui indique qu'on a également une dégradation de ces matériaux à haut potentiel, d'où ce n'est pas la solution idéale. Alors, dans ce cas, pour trouver une solution idéale, les travaux se sont portés sur différentes phases, et la phase sur laquelle je terminerai ce cours est certainement la plus intéressante, est indiquée ici. C'est-à-dire qu'on va partir sur une phase O3 ou P2, Na, Ni05, Mn05, O2, et la phase P2 équivalente. Alors, vous voyez qu'en ces deux phases, on a également de nombreuses transitions de phase, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, dans le cas du sodium, dû tout simplement à la grosseur du sodium par rapport au lithium, vous avez toujours un changement de volume qui va être beaucoup plus important dans le cas du sodium. Et de plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces matériaux, notamment la phase O3, est instable à l'humidité. Ça veut dire que là aussi, c'est un challenge qu'on va devoir affronter pour avoir des matériaux utiles, d'essayer de faire en sorte de la rendre, stable. D'où pour faire cela, là aussi, on va essayer de voir comment on peut réduire ces transitions de phase qui notamment ont lieu à haut potentiel dans laquelle une transformation d'une phase P3 en O1 et ainsi de suite. Alors pour ce faire, une fois de plus, on va dans ce cas utiliser des substitutions au niveau des cations. Et vous allez voir que dans ce cas, on va faire plusieurs substitutions. Tout d'abord, on va substituer dans ce cas le titane. Et vous voyez qu'en substituant par le titane, on a des courbes électrochimiques en cyclage qui semble se stabiliser, et ensuite on va directement faire une double substitution cuivre-titane pour, dans ce cas, à la fois avoir une stabilité électrochimique du matériau, qu'on peut voir avec des tenues en cyclage qui sont nettement meilleures jusqu'à plus de 100 cycles, et également, grâce à ce couplage, cuivre-titane, on va, dans ce cas, également améliorer le potentiel redox, ce qui va nous permettre d'améliorer la résistance à l'humidité. Et grâce à cela, on peut faire des cellules complètes où vous voyez directement la différence ou l'avantage de ces substitutions. Vous voyez tout simplement la tenue en capacité. Lorsque je n'ai aucune substitution, substitution par le titane du manganèse, et enfin substitution du titane par le manganèse et du nickel par le cuivre. Vous voyez qu'en ce cas, on peut obtenir, des performances nettement supérieures. Alors la question que l'on peut se poser, c'est finalement, je vous ai dit tout simplement que c'était dû à la ionocovalence en liaison, mais la question c'est, quelle est la science derrière ces améliorations, ou comment voir comment ces matériaux peuvent s'améliorer. Et pour avoir une réponse à cela, eh bien on va faire tout simplement des mesures de diffraction X, dans lesquelles on va suivre l'évolution de la phase, c'est-à-dire comment le matériau respire lorsqu'on va directement sortir le lithium. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on s'aperçoit que dans la phase non dopée, eh bien, on a, vous voyez, cette transition relativement large. Par contre, si maintenant je fais ma substitution, eh bien, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, je n'ai juste qu'une intercroissance d'une phase O1, ou semble d'une phase O1, et qui est indiquée ici par ces photos de microscopie électronique, où vous apercevez directement les intercroissances des phases O1 et des phases P3. Et grâce à cela, eh bien, j'ai tout simplement modifié la variation de l'expansion de volume de cette phase de 17% à 3%. Et dans ce cas, eh bien, j'ai minimisé la transition de phase, et ce qui me conduit à une bonne cyclabilité. Alors la difficulté qu'il y a ici, c'est que malheureusement, j'ai un élément qui est le cuivre, qui est un élément redox. Je vous ai mentionné le cuivre plus 3, cuivre plus 2, cuivre plus 2, cuivre plus 1. Et il va participer à cette déinsertion. Ce qui fait qu'il va tout simplement me permettre de sortir relativement de larges quantités de sodium et d'être directement très près de cette transition. Donc par conséquent, eh bien, je vais essayer de remédier à cela en utilisant tout simplement des éléments ou des métalliques qui, tout simplement, n'ont pas de couple redox. Et le premier qui doit vous venir à l'esprit, eh bien, c'est d'utiliser tout simplement le zinc. Et si j'utilise l'élément zinc, eh bien, voilà ce qui se passe. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, si je regarde, comme précédemment, eh bien, l'évolution au niveau de la substitution, eh bien, je m'aperçois qu'en ce cas, eh bien, j'ai automatiquement réduit la distance entre les feuillets, j'ai diminué l'expansion en volume, et une fois de plus, je maintiens un certain potentiel pour cette résistance, je dirais, à l'humidité. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce qu'on peut faire avec ces matériaux. Et vous voyez ici la différence essentielle lorsqu'on va directement avec la substitution dans ces différents matériaux. D'où, pour résumer, eh bien voilà directement des trois matériaux de choix que je vous ai parlé, dans laquelle vous avez la phase au départ classique qui est la phase O3, avec une concentration de 1, une phase que je vais revenir intermédiaire dans laquelle je maintiens la phase O3, mais avec une concentration en sodium de 0,85, et enfin la phase est directement P2. Et vous voyez qu'en ce cas, j'ai les différentes capacités indiquées ici. D'où, si je veux, à ce stade, eh bien, isoler un matériau, eh bien, je me dis tout simplement que je vais prendre ici le matériau qui a la plus grande capacité. Malheureusement, ce matériau qui a la plus grande capacité, eh bien, c'est celui qui va réagir le plus à l'humidité. D'où par conséquent, eh bien, je vais tout simplement m'intéresser à ces deux phases, la phase O3 dont la composition est 0,85 et la phase P2 dont la composition est 0,67. Et dans ce cas, eh bien, on sait qu'on va tout simplement avoir une amélioration de la stabilité à l'humidité lorsque je vais directement diminuer mon taux en sodium, et bien sûr je perds en capacité lorsque je vais dans cette direction. D'où, eh bien, on va directement voir maintenant ce que ces matériaux, eh bien, peuvent donner lorsqu'on va constituer des cellules sodium-ion. Et vous avez ici le comportement directement des phases O3 et le comportement des phases P2 à 25 degrés C, avec, dans le cas de O3, un potentiel moyen de 3,1 volts, c'est-à-dire une fois de plus une phase qui va être encore, je dirais, sensible à l'humidité, alors que dans la phase P2, eh bien, on a dans ce cas un potentiel moyen de 3,5 volts. Et la phase O3, comme vous pouvez voir ici, notez bien, ici sur 400 cycles, j'ai des sous-descendus de 200 mAh, alors que vous voyez qu'ici, la phase P2 a une très bonne tenue en capacité. D'où la question, là aussi, quelle est l'origine de cette tenue en capacité entre ces phases O3 et ces phases P2? Alors, pour avoir une première réponse à cela, eh bien, on va faire des manips d'électrochimie, dans lequel ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un accumulateur, on va tout simplement le cycler une fois, et ensuite, directement, le mener à des potentiels de 4,4 volts, 4,2 volts ou 4 volts dans la charge suivante, et faire une charge à constant courant et à constant potentiel. Et on va directement suivre la variation du courant. Et on s'aperçoit que dans la phase O3, eh bien, lorsque je vais varier le potentiel, on a un courant résiduel qui est toujours beaucoup plus important que dans la phase P2. Cela veut tout simplement dire que l'on a finalement des réactions parasites beaucoup plus importantes avec la phase O3 qu'avec la phase P2. Et en plus de ça, eh bien, si on regarde au même potentiel ce qui se passe, je dirais, au niveau dissolution des métaux, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une dissolution qui est beaucoup plus importante dans le cas de la phase O3 que tout simplement de la phase P2. D'où par conséquent, on peut se demander quelles sont les conséquences de ces détériorations au niveau du matériau. Et pour regarder ces conséquences au niveau du matériau, eh bien là, on va tout simplement avoir recours à la microscopie. Et vous voyez ici tout simplement des mesures de microscopie haute résolution sur ces deux phases. Et vous apercevez qu'à ces hauts potentiels à cyclage, eh bien vous avez des fractures dans ces matériaux qui ne sont pas surprenantes, dues directement au caractère lamellaire de ces matériaux. Mais par contre, si on regarde maintenant au niveau microscopie, eh bien là, on va avoir beaucoup plus d'informations. Et grâce à ces images de microscopie, où là, vous regardez directement à l'échelle atomique, et vous regardez directement ces matériaux lamellaires long de la direction C, c'est-à-dire que vous voyez directement les plans des atomes, et on fait ça avec High Angle Annular Dark Field Image, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va avoir très bon contraste avec tout simplement les éléments de Z de élevé, qui apparaîtront directement de façon, je dirais, beaucoup plus brillante que les éléments beaucoup plus légers. Et vous apercevez ici, comme voit les métaux de transition, vous voyez très bien les métaux de transition MO2. Et ce qui est intéressant, eh bien, si on regarde maintenant dans les composés ou dans l'espace interfeuillé, où on a du sodium, eh bien, on s'aperçoit qu'on a, si on regarde le profil des intensités, on s'aperçoit qu'on a un profil d'intensité qui est relativement élevé, qui indique tout simplement qu'on a une migration cationique à l'intérieur de ces feuillets. Et cette migration cationique est beaucoup plus importante pour la phase O3 que pour la phase P2. Et là, vous voyez très bien, je dirais, les prouesses de la microscopie pour vous montrer réellement ce qui se passe à l'échelle locale dans les matériaux. D'où, il y a une migration importante, je dirais, des métaux et dans ces phases O3 que dans la phase P2. D'où, par conséquent, les stratégies qu'on utilise aujourd'hui pour, je dirais, combattre cela, eh bien, sont, je dirais, adaptées ou inspirées de ce qui s'est fait dans le cas du lithium-ion. On va utiliser tout simplement des méthodes d'enrobage. Rappelez-vous, je vous ai montré les méthodes d'enrobage déjà sur ces matériaux. On va également utiliser ce qui est à la mode, ou ce qui se développe beaucoup dans le cas du lithium-ion, essayer de dessiner des matériaux qui ont directement une morphologie monolithique plutôt qu'une morphologie polycristalline. Et enfin, on va tout simplement essayer, je dirais, de tirer parti de l'avantage d'avoir des intercroissances au niveau des matériaux pour améliorer ces tenues en capacité. Et bien sûr, voir si on peut faire des matériaux à gradient de concentration. Et tout cela, eh bien, devra être complété par des améliorations au niveau de l'électrolyte. Donc voilà, si vous voulez, un peu, je dirais, balayer ces composés polyaniniques et ces composés lamellaires. Et maintenant, il m'appartient de conclure. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? Mais ce qu'on peut tirer de tout cela, eh bien, ou la question que nous allons poser, qu'est-ce qu'on perd en passant de NVPF à des oxydes? Eh bien, vous voyez qu'ici, au jour d'aujourd'hui, je vous ai mentionné qu'on peut obtenir un niveau de cyclage plus de 8000 cycles avec seulement les polyaniniques. Dans le cas des lamellaires, il y a certainement des améliorations à faire, mais aujourd'hui, on est encore relativement limité. Par contre, la grande différence bien, se situe directement en termes de puissance, où on voit que les lamellaires, qui sont ici les matériaux P2 ou les matériaux O3, en rouge ou en bleu, sont nettement moins performants en termes de puissance que les matériaux polyaniniques comme NVPF. Mais malgré cela, eh bien, je dirais que de nombreuses compagnies, aujourd'hui, sont en train de développer ces matériaux. Et vous avez au moins 4 compagnies, INA en Chine, Faradium, qui existait, mais qui a disparu du marché, S-Volt, Lifan, et certainement d'autres compagnies sont aujourd'hui en train directement de commercialiser ce matériau ou de vouloir le développer. D'où là aussi, je dirais, pour moi, personnellement, il est difficile de battre NVPF carbone bien, en termes de durée de vie et de puissance, mais les matériaux lamellaires sont compétitifs définitivement au niveau de la densité d'énergie, tout en étant plus, je dirais, écologique. Donc voilà, si vous voulez, ma conclusion que je voulais vous dire sur cet exposé entre les matériaux polyaniniques et les matériaux lamellaires. Je terminerai là-dessus en vous remerciant.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.